On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Et soyez les bienvenus comme chaque soir pour votre émission de confidence. Vous avez la parole, on choisit un thème tous les soirs et vous venez nous parler de votre expérience à vous. Ce soir dans On se dit tout, nous allons parler d'un sujet toujours tabou, l'euthanasie, interdite en France et qui suscite toujours autant de réactions. 95% des Français sont pour l'euthanasie, pour abréger les souffrances d'un proche qui de toute façon va mourir. Eh bien on va en parler ce soir si vous avez été confronté à ça dans votre famille, si un proche vous a demandé de l'aider, si vous avez demandé en vain de l'aide à un personnel soignant, si vous avez pris des dispositions pour vous plus tard, pour partir en Belgique ou en Suisse par exemple, pour un suicide assisté comme on l'appelle. 0810 055 056, on sait que ce sera pas une émission très très gaie, mais c'est important d'en parler avec notre grand témoin qui en a écrit un livre très beau et très touchant, Je n'ai pas tué mon père, aux éditions du Cherche Midi. C'est Philippe Cato, bonsoir Philippe.
Bonsoir Alissa.
Je disais, votre livre est très touchant. Il raconte comment votre père est décédé, comment peut-être votre père est décédé. Vous nous faites trois scénarios différents et la vérité n'appartient qu'à vous.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, le fait d'aider une personne à mourir est quelque chose qui est un acte répréhensible aux yeux de la loi. Donc à partir de ce moment-là, on peut évoquer des scénarios. On ne peut pas dire si on l'a fait sans prendre de risque pour soi-même ou sans générer donc une enquête préliminaire éventuelle. Donc je brosse des scénarios dans le livre sans dire effectivement quelles sont les conditions réelles de mon père. Le but étant juste d'illustrer le mal mourir en France par son propre décès, resservi de façon un petit peu différente en fonction des possibilités que nous offre ou pas justement la loi aujourd'hui.
Et puis vous êtes très remonté contre la loi aussi, hein ?
Oui, parce que en fait c'est une hypocrisie qui dure depuis bien longtemps, puisque la première fois que le législateur a touché le sujet de l'euthanasie, c'était en 2002. Depuis, il y est revenu trois fois, par la loi de 2005 et la loi donc de 2016, et sans jamais traiter réellement le sujet, sans jamais autoriser donc l'euthanasie. Donc c'était déjà une première hypocrisie, et pire encore, dans la dernière loi, il propose donc une solution, enfin il nous impose une solution qui est celle de mettre le patient sous sédation, et si le patient ne meurt pas donc des effets de la maladie, eh bien la possibilité pour le médecin donc de débrancher l'hydratation et l'alimentation artificielle, qui ont des conséquences qui sont tout à fait horribles, c'est-à-dire qu'au lieu de mourir par une injection dans le cadre d'une euthanasie, on va avoir quelqu'un qui va s'éteindre en étant déshydraté, étalé sur 6 ou 7 jours dans des conditions qui sont pour les proches tout à fait horribles, avec la peau qui se désquame, les yeux qui s'enfoncent, les lèvres qui se craquellent, un visage qu'on ne reconnaît plus à la fin, donc des conditions qui sont juste, à mon sens, inacceptables ou inadmissibles.
On va parler de tout ça ce soir et on vous attend surtout pour en parler. N'hésitez pas à changer votre prénom, changer votre région, à venir anonymement si vous le souhaitez. L'important, c'est d'en parler. Si vous aussi, vous y avez pensé, si vous aussi, vous l'avez fait, peut-être aussi, et quelqu'un à partir. Le personnel soignant est le bienvenu aussi. Comment on réagit face à la demande d'une famille, par exemple? L'important, c'est d'en parler et c'est ce qu'on fait chaque soir. On va le faire encore ce soir. L'euthanasie, c'est le sujet dont se dit tout jusqu'à 22h.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Sédation profonde, soins palliatifs, suicide assisté, voilà quelques-uns des mots qu'on découvre et qu'on apprend quand on se trouve confronté à la fin de vie d'un proche qui demande à partir. Sauf qu'on n'a pas le droit de l'aider depuis la loi Leonetti. On peut juste le plonger dans un profond sommeil, la sédation. Mais peut-être que vous avez pris des risques pour abréger les souffrances de quelqu'un que vous aimez, que vous vous êtes opposé à l'acharnement thérapeutique, que la sédation profonde ne suffit pas pour vous aujourd'hui. On peut aussi aller faire un tour dans d'autres pays où le suicide assisté est autorisé. On en parle ce soir, c'est important d'en parler et on le fait avec vous au 0810 055 056. Vous pouvez le faire anonymement, je le rappelle, en compagnie de Philippe Cato, auteur du livre « Je n'ai pas tué mon père » aux éditions du Cherche Midi. Et c'est François qui est avec nous pour démarrer cette émission. Bonsoir François.
Bonsoir auditeur et bonsoir Philippe Cato.
Alors
bonsoir.
Vous êtes à Montpellier, François, vous avez perdu votre femme. Vous avez connu cette interrogation à un moment donné de la fin de vie?
J'ai connu cette interrogation, j'allais dire pratiquement dès le début, parce que je crois que je luttais contre un cancer. Malheureusement, faut garder le mot espoir derrière, mais il n'y a pas grand-chose de fait derrière. C'est un cancer du pancréas, et donc on va garder le mot espoir derrière. Mmh. Bon, derrière le mot espoir, comme je dis aujourd'hui, il faut penser plus concrètement, malheureusement, à l'euthanasie et sous quelle forme, comment ça allait arriver, et ainsi de suite. Donc au bout du bout du bout du bout, mais quand on arrive à débrancher les tuyaux, je crois que c'était le point qu'a expliqué Monsieur Ficato, ben vous êtes laissé à vous-même, et c'est ce qu'il a expliqué, c'est que ben vous allez voir votre épouse ben, dépérir devant vous.
C'est-à-dire que comme pour votre femme, François, c'est ce qui s'est passé, une sédation profonde, et elle a été ensuite débranchée, c'est ça?
Non, pas du tout. Elle était, c'est-à-dire qu'elle était en alimentation, intubée. Et,
oui.
Et donc, à un moment, on n'arrivait plus à faire quelque chose. Donc, il a fallu, effectivement, arrêter l'alimentation. Donc, après, ben, c'est 3 jours, 2 jours, 4 jours, on ne sait pas. Mais, effectivement, c'est la mort assurée derrière, puisqu'il n'y a plus d'alimentation.
Et vous en aviez parlé avec votre femme? Vous aviez pu en parler avec elle avant?
Pas simple, parce qu'on se bat, on parle pas de la mort. On parle d'un combat, on parle de... Oui, on parle de la mort, mais on repousse toujours. Or, à un moment, en repoussant tout le temps, comme je dis, même une semaine avant, je n'y pensais pas. La dégradation, elle s'est faite en très peu de jours. Vous n'y pensez pas.
Et est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, j'ai envie de l'aider, je dois l'aider, je dois faire quelque chose, et vous étiez impuissant face à ça? Comment ça s'est passé?
Alors, on est totalement impuissant parce qu'on n'est pas préparé, pas du tout préparé. Maintenant, quand la décision a été prise de la débrancher, c'était ne pas la voir souffrir beaucoup plus. Et c'est là que je suis intervenu auprès de ses sœurs. Alors là, je dis bien dit auprès de ses sœurs, c'est d'avoir l'unanimité pour savoir si oui ou non, effectivement, on allait faire un acte d'euthanasie, c'est-à-dire abréger ses souffrances. Alors, je ne peux pas demander à sa maman, puisque sa maman est vivante, de faire un tel geste, parce que je crois que c'est comme si je vous demandais d'assassiner votre enfant. C'est pas possible. On n'a pas de réponse. On ne peut pas répondre.
Philippe Cato, est-ce que le fait de débrancher l'alimentation, donc l'hydratation et l'alimentation, c'est un acte d'euthanasie aujourd'hui?
Non, absolument pas.
Non, c'est pas
considéré
la même chose,
encore
ouais.
comme un acte médical. Donc on arrête, et c'est le droit maintenant du patient de demander à ce qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique.
Ouais.
Donc c'est un droit qui était acquis donc par la loi, et ça c'est plutôt une bonne chose. Mais la question que je voulais poser à François, c'est quand est-ce que vous avez posé la question aux médecins, donc aux soignants, donc de faire ce geste d'euthanasie, parce que parfois ils le font, donc on en parle ce soir, même s'ils le font de façon illégale, mais parfois ils le font.
Ils le font comment avez... d'ailleurs? C'est quoi? C'est une dose
En fait, ils augmentent les doses donc de soit de morphine, ce qu'on faisait avant la loi de 2005, et ils aident le patient à partir plus vite, beaucoup plus vite, puisqu'avec les fortes doses de morphine, ils peuvent faire partir quelqu'un sans conscience et sans souffrance en quelques heures simplement, ce qui a été fait d'ailleurs pour mes grands-parents. Et sinon, ils augmentent les doses d'hypnovel, donc qui accélèrent la mort et qui aboutissent exactement au même résultat. Donc, est-ce que François, les médecins, vous avez pu leur poser la question, quelle était la réponse des médecins quand vous avez demandé cet acte d'euthanasie?
Pas du tout. Ma femme était sous morphine complètement avec une pompe qui injectait un maximum de doses, mais je veux dire, on pouvait même pas aller au-delà. Non, on m'a expliqué, en gros, on a débranché et que elle décéderait dans les quelques jours à venir. Voilà, donc je suis resté face à moi-même et je veux dire, ça n'a pas été simple.
Aujourd'hui, quand vous dites on peut demander au médecin, si le médecin le fait, quand même, il est dans l'illégalité la plus totale, là, Philippe.
Oui, c'est vrai, mais pas mal de médecins, d'abord, leur liberté de conscience, et puis parfois, quand ça se passe à domicile, et c'est le cas aussi fréquemment, certains prennent sur eux de commettre un acte qui était légal, parce qu'il ne sera pas su, donc parce qu'il restera entre les proches et le médecin. Donc nous, on n'a pas eu cette chance, puisqu'on a posé la question à notre médecin pour mon père, en lui demandant de l'aider. On ne savait pas que c'était interdit, puisque je n'avais pas regardé la loi, évidemment, on ne se prépare pas, comme disait François à ces instants-là. Et donc, du coup, quand on a posé la question au médecin, ce que je raconte dans le livre, c'est qu'il nous a dit non. Il nous a dit non, je ne peux plus le faire à cause de la loi, donc la loi de 2005. Et donc, effectivement, un peu comme François, on s'est retrouvé sans possibilité. Et à partir de là, certains Français passent à l'acte parce que c'est chez eux qu'ils ont peut-être des moyens qu'ils peuvent trouver des moyens pour le faire au travers donc parfois de somnifères. On a vu des cas comme l'affaire Mercier où d'ailleurs ce monsieur a été poursuivi en justice pour cet acte d'avoir amené donc des somnifères à son épouse qui lui ont permis de partir plus rapidement. Donc certains médecins le font, il y en a peu maintenant parce que le risque est très important pour eux si ça venait à se savoir. Donc c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu démunis comme François l'a été et comme moi.
François, merci de nous avoir appelés, d'avoir été le premier à ouvrir cette émission. C'est pas toujours évident d'en reparler. Merci encore, François. Et on va continuer d'en parler sur tout ça. C'est important. L'euthanasie interdite en France, mais les questions se posent tout le temps. Elles se posent et elles se sont peut-être déjà posées pour vous qui avez dû accompagner une personne en fin de vie. Elle vous a demandé de l'aider. Vous y avez pensé. Vous avez demandé à un médecin. Est-ce que ça a été possible? Est-ce que vous avez été confronté au refus médical? Le personnel hospitalier aussi est le bienvenu hein, ce soir pour nous raconter comment concrètement ça se passe quand on fait la demande, comment vous devez réagir, quelles sont les dispositions qui sont prises aussi à l'hôpital. 0810 055 056 et puis on va parler aussi du suicide assisté à l'étranger. Peut-être que vous vous êtes renseigné sur ce sujet-là, peut-être que vous avez déjà pris vos dispositions. En tout cas, on en parle et on ouvre le dialogue ce soir sur France Bleu.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
C'est difficile de voir souffrir une personne que l'on aime, surtout lorsqu'on sait qu'il n'y a plus aucun espoir de la sauver. Et se pose alors la question de l'aider ou pas à partir. Vouloir le faire, c'est une chose, ça peut s'entendre, se comprendre, mais pouvoir le faire en est une autre. En France, l'euthanasie est interdite. Il y a d'autres possibilités. On nous dira qu'il y a la sédation profonde proposée en soins palliatifs. Mais encore faut-il faire connaître ses volontés. Et puis l'étranger également, où l'on peut partir sereinement à sa demande. D'autres encore n'hésitent pas à prendre de gros risques. C'est peut-être votre histoire à vous. Vous l'avez vécu avec un membre de votre famille. Ça a été une longue discussion. Venez nous rejoindre, venez en parler tranquillement, sereinement. Vous avez le droit de changer de prénom, de ville si vous le voulez. 0810 055 056 pour en parler en compagnie de notre grand témoin, Philippe Cateau, auteur du livre « Je n'ai pas tué mon père » aux éditions du Cherche Midi. Et nous partons dans la Vienne chez Annick. Bonsoir Annick.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous, Annick. J'ai dit tout à l'heure que le personnel soignant était évidemment le bienvenu parce que c'est une discussion qui se passe aussi à l'hôpital, aussi et surtout. Vous êtes aide-soignante en soins palliatifs.
Oui, c'est ça, sur ce qu'on appelle des lits identifiés soins palliatifs. C'est-à-dire que ce sont quelques lits qui sont identifiés dans un service, et là en l'occurrence de gériatrie. Et sachant que j'ai aussi une expérience au préalable de 3 ans dans une unité de soins palliatifs où là, ce ne sont que des personnes qui relèvent d'un accompagnement soins palliatifs.
C'est-à-dire que la sédation profonde, vous connaissez par exemple ?
Alors, je la connais pour bien sûr connaître la loi et la proposition de la loi de cette sédation profonde. Je l'ai vue très rarement pratiquée. Parce que effectivement, très souvent, il suffit de morphine, hein, c'est ce que expliquait le monsieur, de morphine et l'hypnovel, hein, qui est un produit qui détend les gens, qui enlève beaucoup les angoisses, hein, surtout ce qui n'est pas tellement un antidouleur, mais qui est plus un anti-angoisse, et qui fait que bah, très souvent, en tout cas de mon expérience et de ce que j'en ai vu, la sédation profonde n'a pas besoin d'être appliquée, parce qu'effectivement, la personne, comme elle est soulagée au niveau de ses douleurs, qu'elle est soulagée au niveau de ses angoisses, elle lâche, elle se détend, et c'est cette détente-là qui finalement fait qu'elle peut aussi mourir, puisque moi je constate que très souvent, ce qui empêche aussi la mort ou qui rend la mort difficile et compliquée, c'est justement les problématiques de douleur, d'angoisse, qui tiennent les gens dans une espèce de bras de fer. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais voilà, que je constate des agonies difficiles. Mais effectivement, dès que les douleurs sont soulagées et que cette hypnovel est mise en place, alors il n'est pas mis en but de provoquer la mort du patient, jamais. Et d'ailleurs, il y a des personnes à qui on donne ces produits qui ne meurent pas, hein. C'est pas une obligation de mourir, hein. J'ai même vu des gens qui, sous des fortes doses d'hypnovel, ne mouraient pas, mais en tout cas soulagent les gens.
Philippe Cateau, quand vous entendez le témoignage de Annick?
Sur la sédation, c'est sûr qu'on n'a pas vu beaucoup de sédation parce que la loi date du 2 février 2016 et le décret d'application, alors j'ai peur de me tromper, mais ça doit être à quelques jours près, c'était au mois de novembre dernier. Donc déjà, on voit que le législateur a mis beaucoup de temps à prendre son décret, donc du coup, ça n'a pas encore été beaucoup appliqué. Et après, l'autre point qui est, c'est sûr qu'à l'hôpital, les soins palliatifs sont d'un accompagnement efficace dans une grande majorité des cas, mais beaucoup de gens maintenant et de plus en plus décèdent chez eux et veulent décéder chez eux. Et là, on n'a pas les mêmes moyens. Donc, on n'a pas les mêmes moyens de soins palliatifs. À titre d'exemple, dans le cadre du décès de mon père, on nous a proposé comme soins donc des patchs de morphine. C'est-à-dire que le médecin n'ayant plus de dose et la capacité à faire des piqûres, donc on a des patchs qui sont des patchs avec, que la pharmacie délivre à cadence, c'est-à-dire pas en une seule fois pour éviter justement les abus. Et donc ça n'a pas la même capacité de soulagement qu'à l'hôpital. mentale. Et on voit beaucoup de gens, malheureusement, ne pas bénéficier de soins palliatifs en France, à domicile. Et c'est ce qu'a d'ailleurs relevé le Comité national de consultative d'éthique en disant que le mal mourir en France, hors hôpitaux, donc dans les hôpitaux parfois, mais au domicile, était dramatique. Donc il y a vraiment une différence entre l'hôpital et la maison.
Et la maison. Et Annick, vous avez déjà eu des familles qui sont venues vous voir, qui vous ont dit, s'il vous plaît, aidez-nous, aidez-le à le faire partir.
Oui, ça arrive de temps en temps. Alors, c'est quelque chose qui est. Alors, je constate avec un peu d'étonnement, c'est que on a les deux. C'est, il y a aussi la peur qui des fois émane. Ça, je l'ai plus vu en unité de soins palliatifs. Des gens qui entrent en unité de soins palliatifs et qui ont peur que justement aussi on les euthanasie. On n'en parle jamais, mais moi j'ai vraiment été témoin de ça aussi, de cette peur là, quelque chose qui est un peu latente. Qu'est-ce qu'on va faire de moi? Est-ce que on va me faire mourir ou pas? Et évidemment aussi j'ai des familles qui me demandent et qui nous demandent à l'équipe, s'il vous plaît, faites quelque chose pour que ça en finisse. Et en fait le travail des soins palliatifs, alors bien entendu moi je ne peux que parler de mon expérience, mais c'est de dire, enfin moi ma question et la question que je pose ce soir, c'est pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de tous être ensemble pour favoriser le plus possible les soins palliatifs, et y compris à domicile, sachant qu'effectivement c'est quelque chose qui accompagne les gens, et j'ai envie de dire les gens qui vont mourir, mais surtout les proches, parce que j'entends bien dans ce que dit monsieur, mais la grande solitude dans laquelle se trouvent les proches qui assistent justement à des choses qui sont tellement difficiles à vivre, parce que on n'est jamais vraiment préparé, ou pas toujours préparé, mais il y a aussi des morts heureusement qui se passent plutôt bien, mais dans ces moments difficiles, c'est là où il faudrait un accompagnement. Il faudrait effectivement des moyens médicamenteux, ça moi je rejoins complètement ça, mais mon interrogation c'est pourquoi est-ce qu'on part dans ce questionnement de « il faudrait une loi sur l'euthanasie » qui me semble à moi personnellement extrêmement dangereuse, parce que là aussi on voit bien que quelquefois il y a des intérêts, il peut y avoir, on l'a bien vu avec plusieurs choses qui se sont passées à l'hôpital, dernièrement des scandales et tout, que quand il s'agit de la question de l'argent et des finances, ça va peut-être coûter un peu moins cher de dire on va euthanasier toutes ces personnes âgées qui finalement coûtent cher à la société. Enfin vous voyez, c'est ça, je vous parle de mes peurs, mais qui pour moi m'empêchent et vraiment font que je suis contre une loi sur l'euthanasie par cette crainte là et je me dis mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de se mobiliser tous ensemble pour que justement
plus de soins palliatifs plutôt
plus de moyens à domicile aussi, bien sûr, que les gens ne soient pas seuls. Et encore, il y a une possibilité d'hospitalisation à domicile, de ce qu'on appelle l'HAD. Il y a des soins palliatifs maintenant, des équipes mobiles qui peuvent se déplacer, mais c'est sûr qu'il n'y en a pas assez. J'entends bien ça, qu'il n'y en a pas assez. Donc moi, j'irais plutôt...
Yannick, j'aimerais vous poser une question. Comment ça se passe? Imaginons, il y a quelqu'un qui arrive dans une unité de soins palliatifs, ça va faire 3 mois, 6 mois, 1 an qu'il y est. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe pour le corps médical? Vous gardez la personne jusqu'à son décès?
Alors, en unité de soins palliatifs, moi, j'ai déjà vu des gens qui sont restés effectivement plusieurs mois. Après, je voudrais pas rentrer là-dedans parce que je ne suis qu'aide-soignante et je ne connais pas tout ce qui est financier, et je sais que c'est des courts séjours. Donc, il y a aussi des logiques. Quelquefois, il y a des gens qui sont transférés ou qui peuvent être transférés pour faire une rupture de séjour, ce qui est assez difficile, c'est sûr. Mais moi, j'ai vu en unité de soins palliatifs des gens qui sont restés vraiment plusieurs mois jusqu'à leur fin de vie à l'hôpital. Ça a été possible. Après, en règle générale, je sais que le court séjour, c'est 3 semaines à peu près, et c'est vrai que très souvent, les décès interviennent dans ce laps de temps-là aussi. De mon expérience, le décès, quand même, intervient assez rapidement.
Oui, on n'arrive pas en soins palliatifs par hasard, en fait.
Non, on n'arrive pas par hasard, et puis souvent, on y arrive même, j'ai envie de dire, un peu trop tard, dans la mesure où on peut effectivement ne pas avoir le temps de faire un accompagnement suffisant, parce que justement la personne y arrive et décède très peu de temps après. Quoi.
Philippe Pétot,
c'est des problématiques.
Oui. Annick, moi je voulais revenir sur 2 points que vous avez soulevés qui me paraissent importants. Vous disiez la loi, légaliser l'euthanasie serait dangereux. Ça a été fait en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, aux Pays-Bas. Et il y a des conditions qui sont extrêmement draconiennes. Il faut être, et c'est parfaitement légitime pour éviter les excès. Donc il faut être en phase terminale d'une maladie incurable. Il faut avoir fait sa demande donc express, écrite, etc. Et donc en fait, quand on regarde ce qui s'est passé dans ces pays-là, il y a que 3 ou 4% des gens donc qui sont chez qui on pratique l'euthanasie, donc parce qu'on n'arrive pas à soulager leur souffrance, et qu'ils ont fait cette demande et qu'ils sont tout dans, qu'ils remplissent tous les critères. Donc il y a, et quand on regarde, il y a que 3 ou 4% qui l'ont utilisé, mais tous ceux qui étaient en difficulté et qui s'interrogeaient donc dans ce chemin vers l'inconnu, en se disant mais si les souffrances deviennent trop difficiles à supporter, le fait de savoir que l'euthanasie est possible et peut donc définitivement les soulager, les faire partir, c'est comme un peu une assurance en fait, ça les rassure, ça les aide de savoir que c'est là, et la plupart ne l'utilisent pas. Donc ça c'était le premier point sur les lois, elles sont très encadrées, et du coup on n'a pas vu d'excès commis. Et la deuxième chose, vous disiez, à l'hôpital, j'ai peur, certains ont peur qu'on les euthanasie, et ça c'est parfaitement juste également. Et c'est pour ça que dans le livre, je recommande le suicide assisté, c'est-à-dire que c'est le médecin qui, enfin vous connaissez ça, mais je le dis pour les auditeurs, donc c'est le médecin qui met en place la seringue, mais c'est le patient, s'il est conscient, qui appuie. Et donc là, sa décision, personne ne peut lui voler, puisqu'en fait, c'est lui qui fait le geste. Et l'euthanasie ne sera appliquée que dans les cas où il n'y a pas de conscience, et dans les cas où tous les critères sont remplis, et dans les cas où effectivement il y a eu des directives anticipées qui ont été signées par le patient et qui a demandé donc l'euthanasie, donc selon les formes requises par la loi. Donc je crois qu'on arrive à répondre entre le suicide assisté et les critères donc nécessaires pour pouvoir demander l'euthanasie, à protéger, à aider les mourants donc qui ne sont pas soulagés à partir plus facilement, sans en évitant les excès. Donc et c'est un peu ce qu'on voit en Suisse, la moyenne d'âge est de 77 ans par exemple pour les gens qui ont été euthanasiés, ce qui montre que c'est plutôt donc effectivement en fin de vie des personnes malades et qu'il n'y a pas eu de gens qui auraient demandé une euthanasie en étant jeunes et comment je veux dire par un coup de déprime. C'est quelque chose qui est protégé par les critères.
Annick, merci beaucoup de nous avoir appelé ce soir. C'est important aussi qu'on et le regard du corps médical. Alors je rappelle qu'on a fait il y a quelques mois de cela une émission sur la fin de vie où on avait beaucoup parlé des soins palliatifs. Ce soir, c'est pas une émission sur les soins palliatifs, c'est vraiment une émission sur l'euthanasie. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a les soins palliatifs et ça existe aujourd'hui, mais moi j'aimerais qu'on aille un petit peu encore plus loin. C'est-à-dire la question, est-ce qu'elle s'est posée à un moment donné? Est-ce que vous avez été confronté à la demande d'un de vos proches qui vous a dit « je veux partir, je veux mourir, aide-moi » et qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on se dit et comment on fait pour aider cette personne? C'est vraiment le thème de l'émission ce soir. On va parler aussi d'euthanasie à l'étranger, hein, de suicide assisté comme on l'appelle. Est-ce que vous avez déjà fait des démarches? Est-ce que vous avez accompagné quelqu'un aussi? 0810 055 056 pour nous rejoindre jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
En France, l'euthanasie est interdite, mais elle fait beaucoup parler et réagir. La plupart des Français y étant favorables, mais la loi l'interdit. On ne peut pas demander, par exemple, à un médecin une dose un peu plus forte de morphine, par exemple, puisque le médecin serait alors hors la loi. Mais du coup, on fait comment? On en parle comment? On se débrouille comment? 0810 055 056 pour nous rejoindre jusqu'à 22h et pour échanger autour de l'euthanasie, de l'accompagnement possible ou pas, si vous avez vécu ça, pardon, du côté de la famille ou si vous faites partie de l'encadrement hospitalier confronté à ce genre de questions. Notre grand témoin, c'est Philippe Cato qui sort un livre très poignant, « Je n'ai pas tué mon père » aux éditions du Cherche Midi. Et nous sommes avec Philippe dans l'Ouest. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
C'était une demande de votre père, ça s'est passé il y a 4 ans.
Oui, tout à fait. Après 18 mois de lutte contre une SLA, une maladie de Charcot, dont 8 mois sous assistance respiratoire, mon père qui était patron, qui a toujours décidé de sa vie sur un ras-le-bol et puis sur une dignité qui commençait à perdre avec des couches, il était plus capable de rien faire tout seul, a dit j'en ai marre et il a décidé il a tout simplement décidé de la date où il voulait partir. On s'est laissé une semaine de réflexion à la demande des enfants. Et puis, le médecin généraliste, qui avait un lien tout à fait particulier avec lui, a été d'accord. Et ça a été une réelle euthanasie, mais avec l'accord de tous. Et il a, du coup, ça peut se faire entouré de toute la famille. Il est vraiment, je vous assure, que quand on l'a allongé sur le lit une dernière fois, il avait le sourire. Et il savait que c'était fini, que c'était la libération. Et moi, je trouve que c'est une... C'est vraiment dans le cadre d'une maladie grave, extrêmement pénible, une manière de partir dans la dignité, de la meilleure manière qui soit, quoi.
Et avec un médecin qui a été compréhensif et qui s'est mis dans l'illégalité quand même, il faut le savoir, Philippe.
Oui, j'en suis bien conscient, il en est conscient aussi. Disons que ça peut toujours se discuter dans le sens où sa dépression respiratoire était quand même majeure. et sans assistance, il n'était pas autonome. Donc, on a le droit d'arrêt. Alors, la loi autorise l'arrêt des soins, c'est-à-dire qu'on aurait pu le laisser s'étouffer. Mais ça me paraît franchement inhumain. Bien sûr, il est.
C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire qu'on on n'a pas le droit d'aider à mourir, mais on va l'aider à souffrir. C'est un peu ça en fait.
Et c'est, oui, oui, tout à fait. Dans le cas présent, dans la sclérose latérale amyotrophique en question, c'est ça. C'est on peut arrêter les soins. Bon, soit. Mais alors on voit la personne étouffée pendant 24, 48 heures. Il est évident que c'est beaucoup plus.
Vous n'auriez pas vu le sourire, vous n'auriez pas vu le sourire de votre papa, par exemple.
Ah bah non, ça sûrement pas, non.
Mm-hmm. C'est Philippe Cato, c'est un beau témoignage, celui de Philippe.
Oui, il rejoint le témoignage des pays qui ont légalisé l'euthanasie, où les accompagnants donc disent, ben voilà, la mort est voulue, préparée, les patients sont, les mourants sont entourés de leur famille. Et il parle donc d'un moment de communion et d'amour, donc de départ qui sont magnifiques, un peu comme vient de nous le dire Philippe. Donc c'est vrai que le parallèle avec les pays qui ont autorisé l'euthanasie est frappant. Enfin, je trouve que le témoignage est extrêmement expressif sur ce plan-là. Après,
Philippe, il a beaucoup hésité, votre médecin, avant d'accepter cette demande.
Non, pas vraiment. Il l'accompagnait depuis tout le début de cette maladie et non, il n'a pas particulièrement hésité. Ça a été un chemin qu'ils ont fait ensemble, j'ai envie de dire quoi. Je pense qu'ils en avaient parlé depuis déjà un moment, mais sans nous en parler à nous. Et non, il a accepté.
Mais c'est pas toujours le cas, même quand on connaît bien le médecin, c'est le cas. C'est
non,
le cas pour
nous
vous.
On connaissait aussi bien le médecin, mais enfin mon père le connaissait très bien, tout au moins. Mais on n'a pas eu cette chance. Mais ça pose aussi justement à nouveau le problème de la loi, parce que ça crée une inégalité, c'est-à-dire qu'en fonction du fait qu'on connaît bien le médecin, qu'il accepte de le faire, ben on va pouvoir avoir la chance de partir dans des conditions, entouré par les siens, d'amour et avec une décision choisie. Et puis pour ceux qui n'auront pas la chance d'avoir un médecin qui voudra le faire, ça crée une véritable inégalité devant la mort, et ça, c'est, je considère aussi que c'est une raison pour légaliser l'euthanasie, parce que c'est inacceptable. On parle toujours d'égalité en France, et la première égalité qu'on devrait avoir, c'est celle aussi devant la mort, et ne pas être dépendant d'un médecin qui dira oui ou dira non en fonction de ses croyances personnelles. Mmh. Donc c'est, voilà, je crois que c'est une raison de plus de légaliser la loi, et que ce beau départ du papa de Philippe eh bien, montre que c'est devenu nécessaire.
Cette oui. Légalisation. Merci beaucoup Philippe, c'est un très beau témoignage. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et on va continuer d'en parler, puisque c'est le sujet dont se dit tout, l'euthanasie, ce soir. Il y a une association qui s'appelle l'Association de la Défense de Mourir dans la Dignité, qui milite, et je crois qu'on aura d'ailleurs un militant dans quelques instants à l'antenne. Vous aussi, venez nous rejoindre au 0810 055 056.
Nous, votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et on ouvre la discussion sur l'euthanasie ce soir avec vous qui avez été confronté de près ou de loin à ce sujet, avec un proche qui voulait partir, qui vous l'a demandé, avec un malade qui vous l'a demandé peut-être aussi. Notre grand témoin ce soir, c'est Philippe Cato, auteur du livre « Je n'ai pas tué mon père » aux éditions du Cherche Midi. Et nous sommes avec Michel en Côte d'Or. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de l'association de la défense de mourir dans la dignité, c'est bien ça ?
Droit de mourir dans la dignité.
Droit de mourir dans la dignité, pardon. J'essayais de mettre les lettres dans le bon ordre. Michel, pour vous, vous militez forcément pour l'euthanasie ?
Je suis membre actif de la DMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité. Je ne suis pas exactement un militant. Il m'est arrivé de prendre parti publiquement une fois sur ce sujet, mais je suis d'abord un membre actif. Je n'ai pas été confronté personnellement au décès proche d'une personne. Ma mère s'occupait de mon père et l'a aidé à partir en présentant une directive anticipée. Mon témoignage était surtout pour faire connaître les directives anticipées et les personnes de confiance et le rôle de la DMD. La DMD milite pour l'euthanasie, pour ensuite assister pour faire évoluer les lois qui sont actuellement, ça a été dit tout à l'heure, un petit peu justes et qui ne sont pas applicables facilement. Elle milite aussi, et c'est le seul fichier national des directives anticipées. Il y a beaucoup de participants, beaucoup de membres actifs, et elle est reconnue d'utilité publique, cette association.
Mais est-ce que vous êtes entendu, est-ce que vous êtes écouté, Michel ?
Par qui ?
Bah, par les autorités, par l'État, par les politiques.
Moi, la première fois que j'ai voulu rédiger mes directives anticipées, je l'ai faite. Ça a été un choix personnel un peu difficile, me confronter à anticiper la mort, alors que j'ai 67 ans, et je suis en bonne santé. Je me suis présenté à mon hôpital en Côte d'Or et j'ai demandé à ce que mes directives anticipées soient mises dans le dossier médical. Ça a été refusé poliment.
Comment ça, refusé?
On m'a dit, c'est pas nous, Stéphane, j'ai écrit très peu.
Alors que la ministre de la Santé communique à fond là-dessus, il faut faire ses directives anticipées, il faut communiquer dessus, il faut y aller, et là on vous a dit non.
On m'a pas dit non, franchement, mais ça n'a pas pu rentrer. J'ai écrit poliment au directeur de l'hôpital, j'ai été invité à rencontrer sur rendez-vous une jeune ingénieure qui s'occupait de la qualité dans l'hôpital, et on a tourné en rond, totalement tourné en rond. Elle avait du mal à trouver son imprimante, à imprimer des textes, et mes directives anticipées n'ont toujours pas été acceptées dans le dossier médical.
C'est incroyable. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous demandez quoi, vous, Michel, par exemple?
Moi, je reprends un texte préétabli par la DMD qui ne fait que reprendre des textes de loi qui existent actuellement, qui ne sont pas du tout l'euthanasie, mais le suicide assisté, parce qu'ils ne sont pas légaux. Donc, on ne peut pas signer des choses disant comme ça. Il y a la loi Lalouetti, il y a la loi Kouchner, pour que les souffrances ne soient pas prolongées, qu'on ne soit pas prolongé. J'ai été hospitalisé dans une clinique privée. Le chirurgien, qui est un noir africain, m'a dit, donnez-moi ça, pas de problème, chez nous, on n'a pas de difficulté avec la mort. Je vais voir l'anesthésiste en pré-anesthésie, et il a refusé de prendre les directives anticipées.
C'est là où, je vous coupe, excusez-moi Michel, c'est là, Philippe Cato, on se dit, il y a un décalage. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit, oui, il faut écrire les directives anticipées, et la ministre de la Santé a vraiment communiqué dessus. Et de l'autre côté, on arrive à l'hôpital, on veut le faire appliquer et ça passe pas.
Oui, c'est parfois ça a du mal un peu à suivre. Heureusement, justement, que les associations sont là, comme la DMD, donc dont le premier geste quand on devient, membre, eh bien, nous envoie justement dans le dossier les directives anticipées pour qu'on les remplisse. Alors, pour peut-être les auditeurs, quand même, les directives anticipées, c'est simplement une façon d'éviter l'acharnement thérapeutique, enfin, de donner ses volontés au regard de la loi. Donc, mais ça n'est pas forcément. C'est une bonne chose. Il faut le faire. C'est indispensable parce que au moins on est sûr qu'il n'y aura pas d'acharnement thérapeutique, enfin, on l'aura demandé. Mais bon, voilà, ça évite l'acharnement thérapeutique, mais ça n'apporte toujours pas effectivement la solution qui est de pouvoir avoir une garantie, entre guillemets, ou une assistance à une mort douce. Voilà, puisque la loi donne des incantations là-dessus en disant on a le droit à une mort digne avec des douleurs apaisées. Donc la loi dit cela, sauf que parfois la médecine ne peut pas le faire. Donc c'est important d'avoir ces directives anticipées. Il faut les faire pour éviter l'acharnement, mais ça n'est pas la solution finale, évidemment.
Merci Michel d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu et on continue d'en parler bien sûr après les infos de 21h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Le droit à mourir dans la dignité, c'est le sujet d'On se dit tout jusqu'à 22h. En finir avec l'hypocrisie, ça pourrait être ça aussi. C'est d'ailleurs le sous-titre du livre de notre grand témoin Philippe Cato, Je n'ai pas tué mon père. Est-ce que ça vous est déjà passé par la tête, vous aussi, de vous dire, tiens, j'aimerais aider mon père, ma mère, mon mari, ma femme, mon enfant à mourir, quitte à se mettre dans l'illégalité. Est-ce que c'est dur de dire non, d'être impuissant? On en parle ce soir. L'euthanasie, c'est le sujet dont on se dit tout, sur le droit à mourir comme on l'entend et quand on l'entend. Venez nous rejoindre jusqu'à 22h sur France Bleu en compagnie, donc je vous le disais, de Philippe Cato. Et Sylvain est avec nous en Bretagne. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir.
Vous connaissez ça, vous, en ce moment, votre maman est en soins intensifs. Elle demande à partir, elle demande à mourir?
Oui.
Qu'est-ce que vous lui répondez? Comment vous pouvez l'aider?
Ben moi, justement, je disais avant, j'ai envie de le faire, mais je me mets hors la loi, quoi. Et c'est lui dire, ben non, de tenir la main, j'essaie d'apporter le plus de bonheur possible jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas plus tard que deux jours, elle m'a dit, si tu m'aimes par amour, débranche-moi. Ça veut tout dire, quoi. Allô?
Oui, André Sylvain, on est ému par votre témoignage et qui montre bien, le scandale du fait qu'on ne peut pas disposer de soi-même alors qu'on est le propriétaire de la vie en question. Enfin, votre maman est propriétaire de sa vie, elle est entourée par des médecins qui ont l'air de dire qu'effectivement, c'est la fin et ils ne peuvent pas l'aider. Donc on voit bien que c'est un scandale qu'on ne puisse pas disposer de soi-même et que l'État vienne jusque dans notre lit, jusqu'au moment de notre mort, nous dire comment on doit se comporter. Donc c'est,
Qu'est-ce qu'ils vous disent les médecins d'ailleurs, Sylvain? Vous leur avez dit
Moi j'en ai parlé ouvertement parce que on est en tout 3 enfants. Hein, derrière, j'en ai parlé à mon frère et à ma soeur, elle m'a dit oui, c'est vrai, on peut en parler au médecin. On a parlé tous ouvertement, tous les 3 ensemble devant les médecins. Le médecin m'a dit j'enlève ma veste, pas de problème. Mais j'ai ma blouse de médecin, je ne peux pas. Ça veut tout dire, quoi. Mm-hmm. Ils l'ont dit carrément, le médecin nous l'a dit carrément, il y a ces questions de semaine, voire de maximum un mois maintenant. Voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment de l'hypocrisie, quoi. Pourquoi la laisser souffrir sur un lit alors qu'elle se voit partir, puisqu'elle m'a dit carrément, le mot débranche-moi par amour. Donc pour moi, se voit partir.
Et votre médecin traitant, j'ai envie de dire, le médecin de famille, vous avez pu en discuter avec lui aussi?
Oui, tout à fait. Et il a affronté avec la loi, quoi. En fin de compte, c'est toujours le même problème, quoi.
Ouais. Votre maman, elle est à l'hôpital, donc, aujourd'hui, Sylvain?
Ouais, elle est toujours à l'hôpital. Je vais compter la voir aujourd'hui, je vais la voir en permanence. Donc, j'essaie d'apporter le maximum entre moi, mon frère et ma sœur, en fin de compte, quoi.
Et la ramener à la maison, c'est pas quelque chose que vous aimeriez faire? Est-ce qu'on peut, d'ailleurs, Philippe Cato, je pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, Sylvain peut décider que sa maman va rentrer chez elle?
Oui, maintenant, je ne connais pas suffisamment bien la situation, mais normalement, les soins palliatifs à domicile existent maintenant, donc le HAD, et donc du coup, on peut rentrer chez soi, ce qui souvent, pour un certain nombre de patients, justement, qui sont dans le cas de votre maman, c'est ça adoucit la difficulté des instants qu'ils sont en train de vivre, donc rentrer à la maison, et demander l'hospitalisation à domicile. Alors, certains cas qui sont très lourds, ce n'est pas possible, ça dépend effectivement des soins qui sont prodigués, parce que quand c'est trop lourd, on ne peut pas les faire à la maison. Mais sinon, c'est une possibilité qui a certainement... Moi, mon père était à domicile et du coup, ça nous a permis de l'accompagner, de lui parler, d'être présent en permanence et qu'il se trouve dans son univers familier, donc qu'il l'aidait aussi à subir ses souffrances qui allaient croissantes. Donc, si c'est possible, c'est mieux, mais on ne peut pas toujours le faire.
Sylvain, merci de nous avoir appelé, d'être venu témoigner ce soir. On vous souhaite plein de courage à vous et vos frères et sœurs, votre famille. C'est des moments qui sont difficiles, effectivement. Philippe Cato, dans votre livre « Je n'ai pas tué mon père », vous racontez 3 histoires. Chaque fois, c'est l'histoire de la fin de vie de votre père et vous l'imaginez de 3 façons différentes. Vous l'expliquez de 3 façons différentes.
Oui, en fait, l'idée, c'était d'imager justement ce qu'on vient d'entendre, la solution où on n'a pas de solution, où personne ne vient aider le mourant et où on n'arrive pas à soulager ses douleurs. La deuxième solution, c'était effectivement, deuxième scénario, c'est la personne qui a anticipé à tel point qu'elle va mourir à l'étranger, un peu comme je dis dans le livre, comme un réfugié ou un apatride, donc c'est un petit peu un côté un peu inacceptable aussi. Et puis la troisième façon, c'était sous sédation avec la nouvelle loi. Donc le but, c'était de faire réfléchir sur la loi qui est parfois difficile d'accès et en illustrant ces lois par le décès de mon père, par une situation réelle, donc je ne dis pas comment à la fin je laisse au soin au lecteur de deviner, de se faire une opinion sur les conditions réelles du décès, mais c'est plus facile d'aborder la loi par l'illustration d'un décès réel que d'en parler avec les termes du législateur qui sont parfois compliqués à comprendre.
Vous écrivez, c'est un des titres du chapitre, « Les souffrances d'un homme moins considérées que celles d'un chien ».
C'est horrible. Je donne l'exemple de ma fille qui est allée, on avait un chat et ce chat était malade et on est allé chez le vétérinaire et le vétérinaire a dit mais vous auriez dû me l'amener avant parce qu'il souffre trop et donc on va pas le laisser souffrir plus longtemps et il a piqué le chat. Donc c'est quand même incroyable de voir, on a entendu tout à l'heure des témoignages et Philippe notamment, donc de gens qui sont dans des situations extrêmement difficiles mais pour les animaux on les aide, on fait la piqûre et pour un être humain on le fait pas. Donc oui, effectivement, je considère qu'en France, aujourd'hui, contrairement à d'autres pays, la souffrance humaine est moins bien traitée que celle des animaux.
Dans quelques instants, nous serons avec Brigitte à Marseille qui a accompagné son compagnon pour un suicide assisté en Suisse. Elle nous racontera ce cheminement, ce parcours, comment ça s'est passé aussi. On parle de l'euthanasie ce soir sur France Bleu, l'euthanasie interdite en France, mais la question se pose quand même, les interrogations, les inquiétudes aussi. Et puis, on est face à la loi, on est face à une impossibilité de faire ce qu'on veut de son corps quand on décide de mourir, quand on décide que c'est le moment. Venez nous en parler, vous aussi, vous qui avez connu ça, qui avez aidé un proche à partir. Si vous êtes médecin et que vous voulez témoigner anonymement aussi, bien sûr, faites-le. 0810 055 0 56. On se retrouve dans un instant. France Bleu,
France Bleu. Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Et on parle d'un sujet toujours tabou en France, l'euthanasie interdite et qui suscite toujours autant de réactions. La plupart des Français sont pour l'euthanasie, pour abréger les souffrances d'un proche qui, de toute façon, va mourir, on le sait. Et on en parle ce soir si vous avez été confronté à ça dans votre famille, si un proche vous a demandé de l'aider, si vous avez demandé en vain de l'aide à un personnel soignant, si vous avez pris des dispositions pour vous, plus tard, pour partir à l'étranger, par exemple. Venez nous rejoindre, venez nous raconter comment ça se passe ou comment ça s'est passé pour vous. 0810 055 056. Notre grand témoin, on a écrit un livre, un très beau livre, très touchant. Je n'ai pas tué mon père aux éditions du Cherche Midi, c'est Philippe Cato. Et nous sommes maintenant à Marseille avec Brigitte. Bonsoir Brigitte.
Bonsoir Vanessa, bonsoir Philippe et puis bonsoir à tous les auditeurs qui sont dans la détresse.
Vous, vous avez connu ça, Brigitte, et vous êtes partie avec votre compagnon en Suisse. Vous l'avez accompagné?
Oui, c'est très récent. C'était à l'automne dernier. Il était atteint d'un cancer depuis 2 ans. Il se battait avec des hauts et des bas, comme beaucoup de patients, avec des espoirs, des désespoirs. Et puis, il est arrivé un moment où il en avait vraiment assez. Donc, il a fait, il a accompli toutes les démarches que l'on demande en Suisse quand on fait partie d'une association qui vous aide au suicide.
C'est-à-dire vous en aviez déjà parlé avant, Brigitte ?
Oui. Ça faisait plusieurs années, même avant qu'il soit atteint de cette maladie, qu'il me disait que il ne voudrait pas mourir à l'hôpital, il ne voudrait pas mourir dans la déchéance, qu'il voulait décider de sa propre fin. Donc, j'étais vraiment préparée. Et puis, les Suisses ont cette chance énorme d'avoir des associations qui luttent pour aider les gens à vivre l'euthanasie. Et ce sont des gens vraiment exceptionnels, compétents. Attentif, vraiment chapeau les Suisses.
Comment ça se passe concrètement, Brigitte? À partir du moment où on prend la décision, on dépose un dossier, racontez-nous le processus finalement.
Alors déjà, il faut savoir que ce suicide assisté n'est pas légal en Suisse, il est toléré. C'est-à-dire que c'est à l'issue, lorsque la personne est décédée, c'est considéré quand même légalement comme un suicide. Donc, c'est quelque chose qui est très encadré, mais il y a une suite avec la visite de gendarmes qui vont prendre les dépositions du parent qui a accompagné le défunt, de l'accompagnant de l'association qui a fourni la potion létale. Et après, à l'issue de cette déposition, il y a le médecin légiste qui vient, le procureur est saisi, et normalement, ça se passe toujours très bien. Mais il faut bien savoir que c'est du sérieux, quoi. Ce n'est pas...
Oui, c'est pas fait clandestinement.
Voilà.
Non, mais c'est important de le dire.
Oui, bien sûr, parce qu'on croit que... Non, ça se fait pas comme ça. Et puis surtout, en amont, il y a déjà... l'adhésion à l'association à laquelle vous avez recours. Je ne sais pas si je peux la donner son nom.
Oui, bien sûr.
En l'occurrence, c'était l'association Exit. Il faut être sociétaire depuis normalement 1 an. Mais il y a certains cas qui sont désespérés, où il y a eu des personnes qui ont adhéré depuis 6 mois et qui ont été accompagnées jusqu'au bout. Ensuite, il faut avoir un dossier médical, entre guillemets, béton. c'est-à-dire très, très négatif.
Oui, qui prouve que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de possibilité
voilà,
médicale. Oui, oui.
Exactement. Et puis, il faut aussi que la personne rédige une lettre manuscrite. Alors, dans le cas de mon compagnon, c'était très, très pénible parce qu'il pouvait à peine tenir le stylo, sa main tremblait. Bon, à l'issue de ça, quand vous décidez de partir, le médecin de l'association saisit votre dossier et statue s'il donne son accord ou pas.
C'est là qu'on voit, je vous coupe 5 minutes Brigitte, c'est là qu'on voit, Philippe Cateau, que ça se fait pas à la légère, que quand les gens disent oui, on ne peut pas légaliser l'euthanasie en France, ce serait la porte ouverte à des dérives, on voit bien que là, c'est pas une dérive très concrètement pour le conjoint de Brigitte.
C'est vrai que dans tous les pays qui l'ont légalisé, évidemment, ils ont encadré l'acte, comme l'a très bien dit Brigitte. Et c'est vrai que toutes les sécurités sont prises. Et à partir de ce moment-là, on constate très peu d'abus. Les associations comme Exit sont des associations extrêmement sérieuses. D'ailleurs, la plupart du personnel des associations comme Exit sont du personnel médical, mais qui fait ça en dehors des heures de travail, parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire pendant les heures de travail. Mais c'est vraiment très bien encadré sur le plan légal. Et après, derrière, les associations font un travail qui est généralement admirable. Il y a énormément de témoignages, comme celui de Brigitte, qui disent qu'ils sont vraiment bien accompagnés. Et c'est une aide pour la personne et pour sa famille, évidemment.
Et comment
éminemment compétent dans l'accompagnement, dans le choix des mots, dans les manières de rassurer surtout les proches, parce que quand vous accompagnez quelqu'un que vous aimez à la mort, vous ne savez pas du tout comment vous allez réagir. Mmh. C'est une expérience que l'on vit que très très peu dans une existence. Et lorsque vous êtes en tête à tête avec l'accompagnant pour prendre rendez-vous, donc il y a des questions qui fusent, aussi bien du côté du patient qui lui veut être sûr d'aller jusqu'au bout. Mon compagnon a posé, c'était un ingénieur, il avait une capacité d'analyse monstrueuse, il analysait tout. Et là, il a posé vraiment les questions les plus pertinentes parce qu'il avait besoin aussi de savoir et d'être sûr qu'il allait passer de l'autre côté. Mmh. Et là, la personne que nous avions en face était limpide. Elle nous a tout dit.
Toutes les réponses à vos questions.
Il faut savoir que ces accompagnants, souvent, suivent les patients depuis plusieurs mois. Parfois même depuis plusieurs années. Mmh. Bon, dans le cas de mon compagnon, on l'a vu le mardi et on a pris le rendez-vous pour le lendemain. C'était un peu exceptionnel. Hein. Mais je dois dire que ça s'est fait dans la sérénité. Et comme disait tout à l'heure le monsieur qui a accompagné son papa, pour moi, au départ, c'était quand même une angoisse, l'angoisse de l'inconnu. Mais quand tous mes amis, parce qu'évidemment, quand j'ai su que ce serait terminé à telle heure, tel jour, à ceux que j'aimais, je leur ai dit, ayez une pensée pour nous, c'est programmé pour demain, telle heure. Ils m'ont souhaité tous du courage. Eh bien, à la fin de ce vécu, je peux vous dire que j'avais pas besoin de courage. J'ai vécu ça comme un moment merveilleux.
Quand on parle d'amour, enfin là, clairement, je vous entends, Brigitte, il y a énormément d'amour dans tout ce qui s'est passé jusqu'en Suisse avec votre compagnon, avant, pendant, après.
C'est vraiment une chance inouïe que j'ai eue de pouvoir accompagner l'homme que j'aime au départ de l'autre voyage.
C'est très vrai. Émouvant de vous entendre, Brigitte.
J'étais sereine.
Oui.
En fait, c'est un cadeau. C'est fou à dire que la mort soit un cadeau de la vie, mais là, dans mon cas, c'était une fin, comme je disais à la personne qui m'a reçue tout à l'heure, que je souhaite à tous ceux que j'aime. Et il ne faut pas avoir peur de cette fin-là à partir du moment où elle est demandée par le patient qui souffre.
Philippe Cateau, vous voulez rajouter quelque chose sur le témoignage de Brigitte ?
C'est étonnant. Parfois, moi, j'ai eu la même sensation quand mon père est décédé. C'était ce qui me reste en souvenir, c'est comme pour Brigitte, c'est l'amour. Bon, on n'a pas eu la chance d'avoir l'euthanasie, mais il me reste des souvenirs d'amour parce que c'est des moments très intenses où on se dit des mots, donc ils prennent une dimension un peu inconnue. On sait que ce sont les derniers, donc ça prend une dimension assez étonnante. Donc, ouais, moi aussi, j'ai comme Brigitte. Des bons souvenirs malgré tout, donc c'est d'une beauté dramatique, voilà, je crois que c'est d'une intensité qu'on n'a jamais vécue auparavant. Et alors juste un point, c'est dommage que voilà, soit en Suisse et qu'on puisse pas faire ça en France, et là on le sent bien, voilà, le témoignage de Brigitte montre à nouveau, comme certains autres, qu'il faut vraiment avancer sur le sujet en France.
C'est un sujet qui n'est pas abordé par exemple dans la présidentielle ?
Il y a très peu de candidats qui en parlent et c'est regrettable, mais ils le font pas pour des raisons de calcul tout simplement électoral, parce que oui, il y a une partie
c'est se mettre à dos directement plein de gens et c'est
voilà, c'est se mettre à dos, enfin surtout le comment je veux dire, une partie de l'Église, le clergé, et puis et les croyants, une partie des croyants, donc c'est comment je veux dire, ça serait presque un suicide politique pour celui qui le ferait, donc et c'est très regrettable parce que 90% des Français sont pour, mais par contre, si un candidat se déclare pour de façon franche avec un programme pour le mettre en place, eh bien certains crieront à l'hérétique et il perdra ses voix là, ça c'est sûr. Ça n'en fait pas gagner, ça en fait perdre.
Et justement, l'association pour le droit de mourir dans la dignité interpellera les candidats à la présidentielle, je crois que c'est ce samedi.
Oui, c'est ce samedi, donc il y a une manifestation qui est organisée au Cirque d'Hiver, donc à 12h et puis à midi, et puis ensuite à 14h, effectivement, il y aura une interpellation des candidats pour essayer de faire bouger les choses et les obliger à se prononcer sur le sujet, et même s'ils commencent, enfin ils ont du mal à le faire, ils commencent un tout petit peu à le faire, donc il faut que l'association continue, et elle le fait très bien.
Brigitte, merci vraiment d'être venue témoigner ce soir avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'amour aussi, on l'a entendu. On vous embrasse très fort, Brigitte. Merci encore. Dans un instant, la suite de vos témoignages. On parle de l'euthanasie ce soir dans On se dit tout. Et vous aussi, vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé pour vous, comment vous avez été confronté vous aussi à la demande d'un proche ou à la demande d'un malade. On peut aussi en parler de ce côté-là. 0810 055 056.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
C'est difficile de voir souffrir une personne que l'on aime, surtout lorsqu'on sait qu'il n'y a plus aucun espoir de la sauver médicalement et se pose alors la question de l'aider ou pas à partir. Vouloir le faire, c'est une chose. Ça peut s'entendre, ça peut se comprendre, mais pouvoir le faire en est une autre. En France, l'euthanasie est interdite et nous, on a décidé d'en parler ce soir avec vous qui connaissez ça, qui l'avez connu, qui y avait pensé, qui avait peut-être aidé quelqu'un à partir. On se dit tout, vous donne la parole jusqu'à 22h au 0810 055 056. L'euthanasie qui n'est pas autorisée en France, et quand elle n'est pas autorisée, qu'est-ce qui se passe? Il y a des morts violentes. On va en parler avec Georges qui est avec nous sur France Bleu. Bonsoir Georges.
Bonsoir.
Vous êtes maire d'un petit village dans le sud de la France.
C'est ça, moins de 5000 habitants.
Et du coup, quand on est le maire, c'est vous qu'on appelle en premier quand il y a un suicide sur la commune?
Voilà, quand il y a un accident grave ou un suicide, c'est nous, oui, bien sûr. Et ça m'est arrivé malheureusement à plusieurs reprises d'être appelé sur des suicides qui étaient dus à des personnes qui mettaient fin à leur jour parce qu'elles en avaient marre, elles avaient la possibilité, c'est pas le cas de certains malades dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sont au lit et qui peuvent malheureusement pas réagir. Mais là, il y a certaines personnes qui peuvent soit se donner un coup de fusil, soit sauter du 3 au 4e étage. Et je l'ai vu plusieurs fois. D'ailleurs, certains se sont loupés et ça a été extrêmement douloureux pour eux. Et mais je pense aussi aux gens qui sont là pour leur venir en assistance, au secours, qui ramassent les morceaux. Ça, tout ça pourrait être évité si, bien sûr, il y avait la possibilité de leur laisser partir avec une mort douce voulue et avec des personnels compétents. Et voilà, ça éviterait ce genre de drame.
Tellement plus simple aussi pour ceux qui restent, bien sûr,
pour les familles aussi.
Oui, parce que c'est pas la même chose de voir son père, son frère, sa femme partir en douceur. Alors même si voilà, c'est la mort, mais elle part doucement, que comme vous dites, sauter d'un quatrième étage, se tirer une balle dans la tête. Enfin, la notion de la mort est pas du tout la même, Philippe Cateau.
Mais non, c'est vrai. Mais enfin, surtout ce qui, quand on écoute Georges, on se dit mais quelle hypocrisie et quelle hypocrisie de notre législateur, de nos gouvernants qui disent oui, mais si on légalise l'euthanasie, il y aura peut-être des excès. On se rend compte que c'est pas le cas dans les pays qui l'ont autorisé. Mais par contre, on ne parle pas du tout des cas dont Georges vient de nous parler, c'est-à-dire tous ceux qui, comme il n'y a pas d'euthanasie en France, effectivement, choisissent le suicide d'une façon forcément violente, puisqu'il n'y a pas d'autre solution. Donc, et toutes les conséquences que ça a sur les familles, sur leurs familles, etc. Donc c'est vraiment une hypocrisie, et je trouve que le témoignage de Georges montre bien à quel point le législateur se sert de parce qu'il n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout de l'acte et de légaliser l'euthanasie, se sert donc des éventuels excès ou abus de l'euthanasie, alors qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont des excès liés à l'absence d'euthanasie, justement, qui amène les gens à se suicider dans des conditions, comme nous a dit Georges, qui sont extrêmement violentes, insupportables.
Alors, je sais, Georges, que vous êtes maire d'un petit village, et quand on dirige un petit village, on ne fait pas forcément de la politique politicienne, mais vous aimeriez que le débat de l'euthanasie soit dans la campagne présidentielle, par exemple ?
Bien sûr, je trouve que ça serait une démarche courageuse de la part des candidats, parce que c'est un vrai problème, et moi, si je l'ai vécu à ma petite échelle, plusieurs fois dans ma vie, ça doit se passer dans des centaines de milliers de fois en France, et donc forcément c'est un cas à examiner de près, parce que c'est un vrai phénomène de société. Tout à l'heure votre invité disait qu'on pique les animaux et on pique pas les gens, donc c'est pour pas qu'ils souffrent. Donc là c'est quelque chose de tout à fait moi je trouve ça scandaleux, et je pense qu'il vaut mieux donner la possibilité aux gens de s'en aller en douceur quand ils le souhaitent, avec toutes les précautions nécessaires, et ça éviterait ces bains de sang qu'on voit parfois, et aussi, je pense au secours qui ramasse les morceaux, parce que pour eux, c'est pas marrant du tout. Mmh. J'ai vu plusieurs fois, et même moi, ça m'a parfois empêché de dormir, de voir ces scènes qui étaient extrêmement violentes, et si ça pouvait être évité, je crois que ça serait bien pour tout le monde.
Mmh. Et puis la liberté, le droit à disposer de son corps, tout simplement, enfin, ça paraît être un des droits fondamentaux, je ne sais pas, ce n'est pas écrit dans la Constitution des droits de l'homme, de disposer de son corps, d'en faire ce que l'on veut.
Mais si, c'est vrai que d'ailleurs la Commission européenne a un peu statué sur le point, elle a ouvert le droit puisqu'elle laisse la possibilité aux États membres de l'Europe de voter donc au niveau national l'euthanasie. Donc ça veut dire que le droit européen dit qu'on a le droit à disposer de soi-même, et il va même plus loin puisque la Cour européenne a déclaré que cet article allait jusqu'au droit de mettre fin à ses jours, donc la liberté de mettre fin à ses jours. Donc elle l'a interprété jusque-là, maintenant il faut que les pays comme la France, qui sont très en retard, le transforment, se posent dans leurs droits eux-mêmes en prenant la décision, mais l'Europe a ouvert la porte, donc il suffit juste peut-être de se mobiliser en France pour réussir à l'obtenir, puisque le droit européen nous en laisse la possibilité.
Merci beaucoup Georges d'être venu témoigner ce soir, on vous embrasse et on vous remercie encore. On a vu que la plupart des Français, on le voit dans les sondages, sont pour l'euthanasie, et ça se voit aussi sur les réseaux sociaux ce soir, puisque sur le Facebook de France Bleu, sur les témoignages liés à l'émission, il n'y a que des gens qui sont pour l'euthanasie, qui ne sont pas forcément directement concernés, mais qui se disent « bah voilà, moi je suis pour, on ne laisse pas souffrir un animal, donc pourquoi pas, à quoi ça sert de s'acharner quand on sait qu'il n'y a plus d'espoir, je suis pour mon choix de fin de vie, l'euthanasie et ma famille est au courant, je sais qu'elle respectera mon choix. » Bon, on espère que ce sera possible à ce moment-là. Vous voyez, il y a énormément de messages et vous pouvez continuer à témoigner vous aussi si vous le souhaitez. Sur le Facebook de France Bleu, vous cliquez « J'aime » sur la page France Bleu. Dans quelques instants, c'est Françoise qui sera avec nous et qui nous racontera son histoire. On se dit tout, c'est tous les soirs jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
L'euthanasie, c'est le sujet qu'on a choisi pour vous. Ce soir, on voit que c'est un sujet qui fait réagir et je vous remercie vraiment de venir témoigner en direct ce soir. Nous sommes dans le Jura maintenant avec Françoise. Bonsoir Françoise. Françoise,
oui,
il faut couper votre radio,
bonsoir,
s'il vous plaît.
Bonsoir à tous. Alors moi, j'ai un petit témoignage, mais qui est beaucoup plus simple par rapport à tous ceux que j'ai pu entendre au cours de l'émission. Mon papa est décédé il y a quelques années et il souffrait énormément. Il avait des difficultés à respirer. C'était vraiment très pénible à vivre autant pour lui que pour nous. Et on s'est consulté en famille, on a demandé au service médical de l'aider à partir. Voilà, et ils l'ont fait. Pardon.
Non, ne vous excusez pas, Françoise.
Ils l'ont fait et ça a été bien, quoi. Il est décédé et on a demandé ça en fin d'après-midi. Et ils l'ont aidé à partir dans la nuit. Donc c'est pour dire que, bon, même si c'est interdit en France, je pense que, voilà... discrètement, ça se fait de temps en temps pour des cas un petit peu délicats. est difficile, quoi, et sans doute à la demande de la famille. Bon, nous, on n'a pas pu lui demander puisqu'il pouvait plus parler, mais on a pris la décision à sa place et je pense que ça a été bien.
C'est bien de pouvoir tomber sur des gens qui comprennent, qui entendent. Il y a la loi et puis il y a l'humain aussi, peut-être aussi, Philippe Cato.
Ben c'est vrai qu'on voit que devant la difficulté, la souffrance de certains, ben l'humain prend parfois le dessus sur la loi. Donc et le corps médical agit parfois et c'est pas un cas isolé. Il y a pas mal de cas répertoriés, enfin qui ont été vus par le Comité national consultatif d'éthique, qui a dit que ça se pratiquait. Voilà, parce que l'humain, à un moment donné, devant autant de souffrances et sans possibilité, eh bien, il finit par enfreindre la loi et pratiquer un geste d'amour, comme on peut l'appeler.
La dernière partie de votre livre, Je n'ai pas tué mon père, c'est une partie juridique, on va le dire comme ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on se met dans l'illégalité pour aider quelqu'un à partir, que ce soit un médecin ou que ce soit le frère, le père, l'enfant, on a des risques de poursuites judiciaires?
Alors les risques sont énormes. Dernièrement, Jean Mercier, qui a, je disais tout à l'heure, aidé sa femme en apportant donc simplement des somnifères. Il lui a simplement apporté les somnifères et il l'a dit à son médecin. Le médecin l'a dénoncé bizarrement et il a été poursuivi en justice par l'État. Donc il a été condamné à un an de prison alors qu'il avait 86 ans. Et puis il a été ensuite, il y a eu un non-lieu en appel, donc la peine a été cassée. Et l'État a fait le gouvernement, le parquet en fait en réalité, vient de faire cassation alors qu'il a maintenant 89 ans, il a un cancer de la prostate et la maladie d'Alzheimer. Donc je trouve qu'à un moment donné, on voit que c'est vraiment, l'État ne veut pas laisser l'euthanasie se faire de façon rampante sur le terrain. Et donc chaque fois que quelqu'un commet un acte et qu'il le savait, eh bien le parquet agit. Et c'est dommage.
Françoise, merci beaucoup d'être venue témoigner ce soir. Merci pour votre émotion aussi. Il ne faut certainement pas s'excuser d'être ému quand on parle d'un sujet comme celui-ci. C'est important de le faire et on l'a fait grâce à vous aussi. Merci Françoise. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt dans On se dit tout.